Vous êtes avec SBS French.
Les autorités dans l'État du Victoria enquêtent en ce moment même sur 8 cas de coronavirus apparus sur le site d'une usine de transformation de viande. Le nom de l'entreprise n'a pas été rendu public car d'après le gouvernement du Victoria, il n'y a aucun risque à la fois pour la santé publique ni non plus d'ailleurs pour la sécurité alimentaire. L'usine en question d'ailleurs est pour l'instant fermée, elle est en cours de nettoyage, un nettoyage intensif. La ministre de la Santé de l'État, Jenny Mikakos, explique que les autorités sanitaires et agricoles sont impliquées dans cette enquête.
Testing for all staff is being conducted as well as contact tracing is occurring of any confirmed cases as well. And the business has now been closed and is being thoroughly cleaned.
Et après des semaines et des semaines de confinement un peu partout dans le monde, la plupart, un grand nombre de pays commencent à en sortir et à lever progressivement les restrictions. C'est par exemple le cas de l'Australie. Des mesures que l'Organisation mondiale de la santé surveille de près et elle rappelle à ces pays que le déconfinement est désormais possible mais qu'il faut le faire à pas mesurés et surtout rester prêt à une possible résurgence du coronavirus. On va prendre le cas de l'Italie, l'un des pays les plus touchés par cette pandémie. Eh bien, là-bas, le nombre de nouvelles infections chaque jour a diminué significativement comparé avec le pic de la crise. En revanche, le nombre de cas confirmés dans ce pays, qu'il se soit traduit ensuite par des guérisons ou des décès, reste le troisième le plus élevé au monde. Donc, garde pour l'Italie. Et pour ce qui est d'autres pays européens, ils commencent donc effectivement à assouplir les restrictions en place. La France, par exemple, va commencer son déconfinement le 11 mai prochain. Et ce, malgré que dans certains cas, eh bien, la pandémie s'est également répandue dans des maisons de retraite. Alors certaines de ces personnes âgées qui y résidaient ont succombé au cours des dernières semaines. On ne sait pas encore précisément quelles sont les causes de leur décès. Il faudra, en tout état de cause, beaucoup de temps pour diagnostiquer si oui ou non le coronavirus est responsable de leur mort. C'est en tout cas l'avis de Maria Van Kerkhove. Elle est épidémiologiste à l'OMS.
Many countries right now are struggling to capture the deaths that are occurring from COVID-19. There's a very good example across Europe through the EuroMOMO project, which is capturing excess mortality in many countries across Europe. And excess mortality right now is very high. And so I think it will take some time for us to really understand which deaths are due to COVID-19 directly.
Et une autre victime du coronavirus dont on a encore jusqu'à présent peu parlé, c'est la liberté de la presse. C'est en tout cas ce que constate l'Organisation des Nations Unies qui a fait part des restrictions grandissantes, mais aussi dans certains cas de sévices infligés à des journalistes qui couvrent la pandémie de Covid-19. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse qui sera célébrée demain partout dans le monde, l'ONU pointe également du doigt une nouvelle vague de désinformation, notamment sur Internet et les réseaux sociaux. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, rappelle que dans la course engagée contre la pandémie actuelle, il est plus que jamais essentiel que les journalistes puissent faire leur métier aussi librement que possible, étant donné les circonstances actuelles.
Temporary constraints on freedom of movement are essential to beat COVID-19. But they must not be abused as an excuse to crack down on journalists' ability to do their work. Today, we thank the media for providing facts and analysis, for holding leaders in every sector accountable, and for speaking truth to power.
Allez, on prend maintenant la direction du Brésil où la menace du coronavirus n'est pas tout à fait prise au sérieux par son président, Jair Bolsonaro, et ce alors que lui-même en a été victime. L'illustration la plus macabre des ravages provoqués par cette maladie dans le plus grand pays d'Amérique latine, eh bien, ce sont ces milliers de tombes qui ont été creusées ces derniers jours dans la ville de São Paulo Près de 13 000 tombes ont été creusées par des fossoyeurs qui sont équipés de matériel de protection, d'un matériel de protection totalement complet, notamment dans le cimetière de Villa Formosa. Et plusieurs enterrements ont déjà été célébrés. Je vous propose d'écouter la sœur d'une des victimes du coronavirus qui a été mise en terre tout récemment.
I can only think of how much pain he went through, and now he can't even be buried properly. He had nothing.
E agora não pode nem ser velado, não pode nada.
Aux États-Unis, la FDA, l'organisme américain de régulation des aliments et des médicaments, vient d'autoriser la mise en circulation d'un nouveau médicament antiviral qui pourrait être administré aux patients atteints du coronavirus qui nécessite un supplément d'oxygénation. Le médicament en question se prend par intraveineuse et 5 millions de doses vont être distribuées aux hôpitaux à partir de lundi. Le commissaire de la FDA, Steve Kahn, a remercié le président Donald Trump pour son action en la matière.
This is an important clinical advance that showed a statistically significant reduction in time to recovery for patients with COVID-19 and is the first authorized therapy for COVID-19. So we're really proud to be part of it.
Et on reste aux États-Unis pour une affaire tout à fait différente. Elle concerne le candidat démocrate à l'élection présidentielle, Joe Biden, qui est visé par des accusations d'agression sexuelle. Les faits se seraient déroulés il y a presque 30 ans, au début des années 90, et sa victime serait l'une de ses anciennes collaboratrices à qui il aurait imposé une pénétration digitale. Des faits sur lesquels Joe Biden ne s'était jusqu'à présent jamais exprimé. Il a fini par le faire tout récemment et il a évidemment fermement démenti l'ensemble de ces accusations. On écoute les explications d'Anne Corpet, la correspondante de RFI aux États-Unis.
I'm saying unequivocally, it never, never happened.
Je le dis sans équivoque, cela n'est jamais arrivé, cela ne s'est pas produit, assène catégoriquement Joe Biden au sujet de l'agression dont on l'accuse. Tara Reid assure s'être plaint auprès des instances compétentes du Sénat en 1993, mais aucune trace d'un document officiel n'a encore été trouvé. Joe Biden affiche sa sérénité et appelle le Congrès à faire des recherches.
Je ne suis pas inquiet du tout. S'il y a une plainte, elle doit se trouver là dans des dossiers. Et si elle existe, sortez-la. Mais je ne l'ai jamais vue. À ma connaissance, personne ne l'a vue.
Mais la défense du candidat démocrate est affaiblie par son refus d'ouvrir ses archives politiques stockées à l'université du Delaware. Il affirme qu'elles contiennent des documents confidentiels, une faille aussitôt exploitée par la campagne de Donald Trump qui dénonce un manque de transparence de Joe Biden. Tara Reid, elle, devrait donner sa version des faits dimanche lors d'un entretien télévisé. Anne Corpet, Washington, RFI.
Et on se dirige un peu plus vers le nord, direction le Canada, dont le gouvernement suit l'exemple de la Nouvelle-Zélande, puisque son premier ministre, Justin Trudeau, vient tout juste d'annoncer l'interdiction des armes à feu semi-automatiques. Le Canada a connu au cours du mois d'avril la pire tuerie de masse de son histoire, un massacre qui a causé la mort d'une vingtaine de personnes à Nova Scotia. L'interdiction qui vient d'être annoncée sera, comme en Nouvelle-Zélande, accompagné d'un dispositif de compensation pour les propriétaires de ce type d'armes qui vont également pouvoir bénéficier d'une période de grâce de 2 ans au cours de laquelle ils pourront donc rendre ces armes si ils en possèdent. Mais le message, en tout cas, lui, est bien là. Et pour Justin Trudeau, c'est très clair, les armes de type militaire n'ont rien à faire au Canada.
We are banning 1500 models and variants of these firearms by way of regulations. These weapons were designed for one purpose and one purpose only, to kill the largest number of people in the shortest amount of time.
On se dirige maintenant vers la France après des semaines de pénurie. Des masques chirurgicaux, mais aussi des masques FFP2 seront vendus à partir de lundi. dans toutes les grandes surfaces, alors qu'en France, en parallèle, on se prépare petit à petit au déconfinement et pour des millions de personnes, le retour au travail. Mais cette nouvelle, les masques vendus au grand public dans les supermarchés, eh bien, elle suscite la polémique, en particulier au sein de la communauté des pharmaciens et des médecins qui se disent tout simplement consternés par cette annonce. On va écouter les explications de Pierre Olivier pour RFI.
Des masques chirurgicaux comme s'il en pleuvait, mis en vente dès ce lundi dans tous les supermarchés français. À titre d'exemple, le groupe Carrefour en annonce 250 millions. Seule exigence de la part du ministère de l'économie, que ces masques soient vendus avec une marge minimale. Ainsi, un masque grand public en tissu coûterait entre 2 et 3 euros et un masque chirurgical moins d'un euro. En revanche, c'est aux enseignes elles-mêmes de définir leur guide de bonne pratique pour la mise en vente de ces masques en magasin. Certaines d'entre elles ont déjà précisé qu'elles limiteraient les ventes à un paquet par client. Mais ce soudain afflux de masques à usage unique par centaines de millions dans les supermarchés irrite au plus haut point les personnels de santé et les pharmaciens. Dans un communiqué, ils s'indignent que de tels stocks aient pu être ainsi constitués depuis plusieurs semaines alors qu'eux manquaient cruellement de ces mêmes masques. De leur côté, les enseignes de la grande distribution assurent qu'il s'agit seulement de commandes et que les masques seront vendus à flux tendu dès leur livraison.
Et pour être tout à fait exhaustif sur les raisons de la colère de la communauté médicale, je vous propose maintenant d'écouter Philippe Bessé. Il est le président de l'Ordre national des pharmaciens.
Ce qui est absolument scandaleux, c'est qu'on vende au grand public des masques qui ne sont pas destinés au grand public. Les masques chirurgicaux, c'est des masques qui sont réservés à usage médical, pour les soignants, pour les malades. Ce que nous attendons de l'État, c'est qu'il réquisitionne ces masques médicaux qui ne sont pas destinés au grand public, qui sont destinés à des publics prioritaires, qu'il les réquisitionne afin de les répartir et de les donner aux gens qui en ont besoin. Ça a provoqué un sentiment d'écœurement de la part de l'ensemble de la population des soignants quand on a vu que, alors qu'ils manquaient dans le circuit de soins, on allait les vendre dans des grandes surfaces, en tête de gondole de grandes surfaces. C'est scandaleux.
Hier, c'était le 1er mai et dans de très nombreux pays à travers le monde, le 1er mai, c'est synonyme de la fête du travail. On appelle ça le Labor Day ou le May Day dans certains pays anglophones. Mais s'il y a bien un endroit dans le monde où cette date est à marquer d'une pierre blanche, c'est à Cuba, où depuis la prise du pouvoir par Fidel Castro en 1959, cette journée qu'on appelle là-bas la Journée internationale des travailleurs est célébrée chaque année en grande pompe. Pas cette année, confinement oblige, ce qui attriste une partie de la population. On va écouter le reportage à La Havane de Dominique Piron pour RFI.
Il n'y a personne, c'est le silence et il pleut. On est bien loin de l'ambiance habituelle d'un 1er mai cubain sur la place de la Révolution qui a pu rassembler par le passé plus d'un million de travailleurs. Reinaldo Martinez fume une cigarette devant chez lui à deux pas de la place et met spontanément son masque en tissu pour nous parler.
Ce n'est pas pareil de défiler comme on l'a toujours fait sur la place de la Révolution que célébrer le 1er mai à la maison. Pour nous, ça représente l'unité, la force du peuple. Et même si on ne défile pas aujourd'hui, avec cette épidémie, on voit encore plus ressortir cette union.
Mais le coronavirus qui a fait pour l'heure 64 morts à Cuba semble avoir eu raison de la ferveur patriotique en ce 1er mai et l'hymne national que le gouvernement avait appelé à chanter à 8h ce matin a été bien peu entendu à La Havane. Seul et nostalgique, Yoandri traverse la place.
Le peuple a compris qu'il y avait cette pandémie et qu'on ne pouvait pas se rassembler, à la différence des États-Unis où il y a plein de morts et où ils rouvrent déjà les centres commerciaux. C'est illogique, mais c'est parce que leur président cynique ne pense qu'à l'argent.
Dans un pays complètement à l'arrêt et déjà en grande difficulté économique, le gouvernement aurait sans doute eu bien besoin d'une grande manifestation d'union nationale en ce 1er mai 2020. Dominique Piron, La Havane, RFI.
Et un petit mot de football maintenant, puisque si en France il n'y aura pas de reprise du championnat de Ligue 1, d'autres pays européens envisagent eux de relancer leur championnat. C'est notamment le cas en Espagne où les matchs de la Liga pourraient reprendre, mais à huis clos, une situation qui pourrait durer pendant plusieurs mois. Écoutez à ce sujet la ministre espagnole des Sports, Irene Lozano.
Tant qu'il n'y aura pas un vaccin ou un traitement parfaitement efficace, il est clair que nous ne reverrons pas des stades pleins. Et je crois qu'il est clair pour tout le monde qu'une telle chose ne se produira pas dans un proche avenir. Cela dit, nous devrions pouvoir profiter du football à la télévision et peut-être, dans une phase beaucoup plus lointaine, nous pourrons commencer à introduire du public dans les stades, dans une proportion, je ne sais pas, d'un tiers, voire plus. Car s'il est vrai que les clubs les plus petits tirent leurs revenus essentiellement des droits télé, les grands clubs avec des grands stades perdent aussi beaucoup d'argent.
Et les propos de la ministre des Sports traduits par nos confrères de RFI. Allez, on arrive maintenant à la fin de ce bulletin et comme toujours, on va jeter un coup d'œil à la météo de ce samedi. Il y a du soleil à Perth où le thermomètre affiche aujourd'hui 27 degrés. Adélaïde, en revanche, est sous la pluie avec 18 degrés. Quelques averses également à Melbourne avec 13 degrés. Il fait très beau à Sydney, mais la ville est en revanche balayée par un vent assez violent et assez froid également. La température maximale aujourd'hui sera de 19 degrés. 24 degrés à Brisbane où il fait beau et il fait beau également à Darwin où il fera aujourd'hui jusqu'à 33 degrés.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.